Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Si l'Assemblée nationale a juridiquement le droit de renverser le gouvernement pour un oui ou pour un non, la portée politique de l'acte nous interpelle tous. Il est clair que cette situation ne saurait durer. Après avoir reçu la démission du gouvernement et pris acte, et après avoir conféré avec les forces vives de la nation et recueilli leurs divers avis, y inclus celui du président de l'Assemblée nationale, je souligne que le peuple souverain tranche. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, j'ai décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale issue des scrutins du 21 juin et du 5 juillet 1992.
Bien qu'il ait remporté haut la main les premières élections présidentielles issues de la Conférence nationale souveraine de 1991, qui a tenu le pays en haleine pendant 4 mois, sous la pression et les ruptures d'alliance avec ses alliés qui ont suivi le scrutin, il n'est pas parvenu à obtenir la majorité nécessaire pour faire voter ses lois. Moins d'un mois seulement après son élection, il est contraint de dissoudre l'Assemblée nationale qui venait de voter une motion de censure contre son gouvernement. Une décision particulièrement contestée qui a mis le pays sous pression, avec de graves manifestations et troubles dans la rue. Un accord a été trouvé. Un gouvernement de transition, un retour aux urnes pour élire les députés à la nouvelle Assemblée nationale. Un scrutin sous haute tension. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Pascal Lissouba. Au-delà du scrutin législatif qui s'annonce tendu, le gouvernement, déjà divisé, doit faire face à un souci de taille. En mars 1993, il doit déjà 7 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs congolais. Les caisses sont vides. Acculé par des fonctionnaires terrassés par le fameux SIDA, acronyme de salaire insuffisant et difficilement acquis, Pascal Lissouba doit réagir vite. Difficile dans ces circonstances de se faire entendre. C'est à ce moment que Pascal Lissouba se tourne vers Elf Congo, la compagnie française, pour solliciter une avance sur recette de son pétrole. Il faut dire qu'au Congo, depuis la découverte de l'or noir, mais surtout depuis 1979, elle fait la pluie et le beau temps. À cette date-là, vous en étiez le patron Loïc Leflore-Prigent. C'est vers vous que Pascal Lissouba se retourne au mois de mars 1993 pour une avance sur recette de 200 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Fort de cette situation, vous décidez de ne pas accorder cette avance que demandait le président Pascal Lissouba. Pourquoi ? Alors que jusque-là, vous l'aviez fait pour son prédécesseur.
C'est Elf qui considérait que la manne devait aller en priorité à l'État et non pas dans les poches des présidents.
Il y avait
une provision qui permettrait de dire, voilà, on vous donne de l'argent en contrôle, et deux, il y a une provision pour le développement, et cette provision, on l'abonde, nous, de Elf, en plus de ce que vous gagnez, on l'abonde, de façon à ce que nous la gérions ensemble pour le développement du Congo.
Mais on sait très bien que cet argent n'était pas géré de façon orthodoxe par Elf, qu'il alimentait de nombreuses personnalités françaises et locales.
Il y avait une petite partie qui allait directement, c'est ce que j'ai expliqué en long et en large pendant des années lors des procès Elf, qui allait directement dans les poches des présidents, et ceci était contrôlé par le chef de l'État et par la direction du budget français, et était défalqué du point de vue fiscal, parce que c'était une dotation particulière.
Lorsqu'on écoute ça, on se dit qu'on était vraiment, mais vraiment en colonie. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, Lissouba est furieux, monte à Paris pour voir le Premier ministre Édouard Balladur pour se plaindre.
C'est dans cette situation que Lissouba présent prépare les élections législatives, en disant, en venant voir Balladur et Roussin, et en disant, voilà, d'habitude, Monsieur Leflore-Prigent faisait des avances à Sassou Nguesso sur le pétrole, et sur que ça, et là, il me refuse. Et donc, je suis convoqué pour savoir pourquoi je refuse à Lissouba ce que j'ai accepté à Sassou Nguesso. Alors, il m'est facile de répondre que je n'ai rien contre rien. Simplement, j'essaie d'éviter que cet argent serve aux élections et non pas au développement du pays, c'est tout. C'est-à-dire que, comme vous le savez, j'ai toujours eu la provision pour le développement industriel du Gabon comme du Congo. Et disons que l'argent qui était donné, je contrôlais la manière dont il a été dépensé. Et là, en l'occurrence, Issouba ne s'était pas caché de dire que son problème, c'était de donner des billets à tous les gens qui votaient. Donc, je lui dis non, c'est pas possible.
Pascal Issouba, déçu, dépassé, va se tourner le 28 avril 1993 vers une autre compagnie. Il signe un accord de prêt avec la société américaine Occidental Petroleum Corporation, Oxy. Celle-ci avance 150 millions de dollars, soit près de 40 milliards de francs CFA au Congo. Le prêt est gagé sur les recettes futures des champs de Nkosa, exploités par Elf Congo, et Kitina, contrôlés par Agip Recherche Congo. 50 millions de barils de pétrole au prix de 3 dollars le baril, alors que le cours est de 14 dollars, vont être livrés à Oxy à la mise en production des deux champs prévus pour les années à venir. Quelques mois plus tard, le Congo obtient d'Oxy une rallonge de 30 millions de dollars, soit 7,5 milliards de francs CFA après négociation. L'argent frais sert à payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires, la veille du premier tour des élections législatives anticipées. Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d'ELF.
Le fait que en 93, l'Issouba ait vendu son pétrole à Occidental Petroleum était effectivement un coup de canif dans le contrat. Et donc, pendant toute la période qui a suivi, on a essayé de revenir sur cet accord et on a fini par, ELF a fini par indemniser Occidental Petroleum. Ça, c'est M. Jaffray qui l'a fait. Hein, c'est clair. Bon, et sous les ordres de M. Balladur, il considérait que c'était impossible de continuer de cette façon. Ça, c'est clair. Mais une fois que ceci a été fait, et qu'on est retourné à des temps antérieurs, si vous voulez, il n'y a pas eu d'hostilité d'aucune nature à l'égard de l'Issouba de la part d'ELF, de mon point de vue. Mais il n'y a pas eu non plus d'amitié.
En réalité, Pascal Issouba n'est plus un ami. Et il va s'en rendre compte. Il a touché à des intérêts qui le dépassent. Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron d'ELF.
Pascal Issouba devient fou et me reconvoque. Je reviens chez lui à Brazzaville et il me dit, il faut savoir si vous êtes contre moi ou pour moi. Moi, je veux liquider Sassou Nguesso de façon définitive. Je veux. Et je dis, mais c'est pas mon business. Vous êtes venu là pour diriger le Congo. Vous ne pouvez pas revenir plein de haine et à l'égard de tout le monde, y compris de Sassou Nguesso qui a marié sa fille à Bongo. Bongo est en liaison avec vous, puis il faut que vous arriviez à une entente. Et donc j'ai trouvé à l'Issouba avec un environnement difficile et finalement un peu d'hystérie inutile.
Il faut dire que la brouille entre Pascal Issouba et Denis Sassou Nguesso porte sur l'accord secret qu'ils ont passé sous l'égide du président Omar Bongo Ondimba du Gabon avec la bénédiction d'ELF. C'est avant les élections présidentielles qui l'ont porté au pouvoir en 1992. Loïc Le Floch-Prigent.
Un accord a été passé sous l'égide de Bongo entre l'Issouba et Sassou Nguesso. Je considère que c'est cet accord, celui qui a rompu l'accord est coupable. Et le type qui a rompu l'accord, clairement, dit Bongo, et je l'ai vérifié, c'est l'Issouba et c'est pas Sassou Nguesso.
C'est clair, ELF ne soutiendra pas Pascal Issouba. Mais pour le moment, il est parvenu à payer les salaires et a un peu d'argent pour organiser ses élections. Mai 1993, les Congolais votent pour le premier tour des législatives anticipées. Les jours suivants, les médias annoncent des tendances favorables à la mouvance présidentielle. Une semaine après le scrutin, avant même la publication des résultats, Bernard Kolela réclame la reprise du scrutin dans 7 circonscriptions que les médias disent gagnées par la mouvance présidentielle. Pendant 2 semaines, la situation reste bloquée. Jean-Martin Bemba, qui préside la CONSELA, la commission électorale, se refusant à transmettre les résultats du premier tour au ministère de l'Intérieur pour publication. Le 20 mai, le ministre Ayayen proclame les résultats. La mouvance présidentielle a remporté 62 sièges dès le premier tour et l'opposition 49. La majorité parlementaire étant de 63 sièges à l'Assemblée, le camp de l'Issouba a gagné. L'opposition conteste les résultats et appelle ses partisans à la mobilisation. Elle refuse de prendre part au deuxième tour dans les 12 circonscriptions encore en jeu le 6 juin. Ce même jour, des inconnus attaquent le domicile du ministre Bokilo, membre de l'opposition, faisant 3 morts. La tension monte d'un cran dans la capitale Brazzaville. La coalition de l'opposition dénonce des fraudes et refuse de participer au deuxième tour, exigeant la reprise du premier tour. Elle appelle à la désobéissance civile. Un climat de guerre civile à fort caractère ethnique s'installe dans le pays, mettant aux prises les ninjas, milices privées de Kolela, et les forces gouvernementales, composées de l'armée et des milices. À partir de ce mois de juin 1993, chaque camp exerce pillage, destruction et tuerie dans les zones qu'il contrôle, contre les sympathisants supposés de l'autre parti. Les ninjas sévissent dans la région de Poul et les quartiers de Bakongo et de Makelekele, tandis que les Aubervillois, milices de l'UPADS de Pascal Lissouba, commettent leurs exactions dans les régions du Niari, de la Lekoumou et de la Bouenza, et dans les quartiers de Mfidou et Diata, à Brazzaville. Sans surprise, la publication des résultats du deuxième tour donne la mouvance présidentielle gagnante de la plupart des sièges en jeu. Les partisans de Kolela interrompent le trafic ferroviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville en mettant des obstacles sur la voie ferrée pendant plusieurs jours. Brazzaville vit au ralenti. Le 22 juin, la nouvelle Assemblée nationale tient sa session inaugurale, alors que l'armée dégage les barricades de la ville. La session, qui est boycottée par les députés de l'opposition, élit André Milongo à la présidence de l'Assemblée nationale. L'appui massif des parlementaires de la mouvance présidentielle à l'élection de l'ancien Premier ministre, dont le parti ne compte que 6 députés, procède d'une manœuvre politique. En renforçant son rival politique dans la région du Poul, le camp de Lissouba espère rogner l'assise populaire de Bernard Kolela. Le 23 juin, le président de la République met fin à l'existence du gouvernement 60-40. Le nouveau Premier ministre est Joachim Yombi Opango, président du Collège des présidents de la mouvance présidentielle. Dans son gouvernement, Da Costa et Bongo Noara, les deux précédents premiers ministres, sont ministres d'État. La plupart des ministres du gouvernement, Bongo Noara, retrouvent leur portefeuille. Le 27 juin, la coalition de l'opposition, qui n'a pas accepté les résultats des urnes, proclame le rétablissement de l'Assemblée nationale dissoute le 17 novembre 1992 et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le premier ministre de ce gouvernement parallèle est Chister Chikaya. Bernard Kolela, le chef de file de cette opposition.
Si l'obstination de la mouvance présidentielle continuait, une solution militaire serait préférable pourvu qu'elle garantisse la démocratie et l'état de droit. C'est ce que j'avais dit, ce n'est pas l'idéal. Nous avons lutté longtemps pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Mais nous préférons bien une telle solution qui garantirait la démocratie que de laisser s'installer au pays la dictature de la mouvance présidentielle. C'est donc les faucons qui l'entourent qui nous poussent à cette solution.
Est-ce que ce n'est tout de même pas un aveu d'échec que de dire qu'aujourd'hui la solution passerait par la prise du pouvoir, ne serait-ce que de manière temporaire, par les militaires? Est-ce que ce n'est pas un échec par rapport au pari de la démocratie au Congo?
Pour nous, c'est une solution extrême, mais c'est pour sauver ce que nous pouvons sauver. Il faut sauver quand même la démocratie. Je vous assure que si la mouvance présidentielle, n'est-ce pas, s'installait toute seule, il y aurait une tragédie, le pays serait plongé dans une tragédie, n'est-ce pas, sans précédent.
Le 28 juin, la Cour suprême, saisie parallèlement par le président de la République et les membres de l'opposition, Jean-Pierre Makouta Mboukou et Clément Mirassa, rend ses conclusions et déclare la proclamation des résultats du premier tour des législatives et l'organisation et la proclamation du second tour des législatives non conformes au texte en vigueur. L'opposition y trouve un regain d'énergie et réclame la dissolution du gouvernement de Joachim Yombi Opango et de l'Assemblée nationale. N'obtenant pas gain de cause, elle fait de nouveau ériger des barricades dans les quartiers de Brazzaville où elle est en position de force. Il s'ensuit un accrochage entre la force publique et des miliciens à Bakongo qui fait 2 morts. Dans les jours qui suivent, les scènes de violence se multiplient à Bakongo et à Makelekele où les ninjas s'en prennent aux sympathisants de la mouvance présidentielle et plus spécifiquement aux ressortissants des régions de la vallée du Niari. Beaucoup d'entre eux sont lynchés et plusieurs maisons sont pillées ou détruites. Les ressortissants des 3 régions acquises à Lissouba fuient massivement Bakongo, Makelekele et la région du Poul. Par représailles, les partis font subir les mêmes affres aux originaires de la région du Poul et dans le Niari, la Bouenza et la Lekoumou. Le 16 juillet 1993, le chef de l'État décrète l'état d'urgence sur toute l'étendue du pays pour 15 jours. Il remplace le général Mokoko par le colonel Eta Onka au poste de chef d'État-major, Pascal Lissouba.
Mais je dois dire que l'armée congolaise a de sérieux problèmes. Nous ne pouvons pas les étaler comme cela au vu aussi de tous. Il y a eu quelques changements à la tête de cette armée. Nous pensons nous y pencher dès lors que nous dès lors que la situation, au moins financière, voyez toujours l'argent, de notre pays nous l'y autorisera. Nous allons nous atteler à cette tâche. Elle est importante et elle est urgente. À partir du moment où, en politique, nous ne retrouvons pas ce choc des idées, des gens qui vous disent « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites », mais nous trouvons plutôt des gens qui vous disent « je veux détruire ce que vous êtes », là est le danger. L'intérêt mobilise le monde, partout. La vertu s'arrête où commence l'intérêt, dit-on. L'argent est l'ennemi de la démocratie. Je l'ai dit il y a déjà 2 ou 3 ans, par écrit, à la Conférence nationale. Mais je pense que c'est un nerf dont on ne peut pas recuser comme cela. Il faut être intéressé, mais dans le bon sens. Et je crois que ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est cette violence qui, elle, est dictée par autre chose que par le conflit, le choc des idées.
Au Congo, en ce mois d'août 1993, la tension est à son comble. Les protagonistes semblent irréconciliables. Le président Omar Bongo Ondimba du Gabon voisin se donne la tâche de les rapprocher, de trouver une solution à cette grave crise qui menace de faire imploser le pays.
Je suis lié aux acteurs de la politique congolaise par des liens de sang, par des liens affectifs, par des liens d'alliance. Et je suis peut-être le seul aussi qui peut dire ce qu'il pense sans embâge à Lissouba, à Sassou et au président Kolela et même à Tshikaya Jean-Pierre. Pourquoi pas le premier ministre Yombi.
Alors, est-ce que là, vous allez aborder concrètement les problèmes institutionnels qui se posent ou alors est-ce que vous allez essayer de trouver une solution de cohabitation?
Avant d'arriver à une cohabitation, je crois qu'il faut d'abord mettre les gens en confiance. Il faudrait que chacun se surpasse et s'efface violence sur soi-même pour dire, bon, on voit l'intérêt du Congo et voyant l'intérêt du Congo, on doit trouver une solution politique à la crise actuelle.
L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, va aussi déléguer à cette négociation Mohamed Sanoun. Ces pourparlers vont permettre la levée des barricades le 29 juillet 1993 et la signature à Libreville d'un accord entre la mouvance présidentielle et l'opposition. L'accord entérine les résultats du premier tour des élections législatives tels que proclamés par le ministre de l'Intérieur et prévoit la mise en place d'un collège international de juristes pour examiner les recours en annulation. Elle prévoit également l'organisation du deuxième tour dans toutes les 6 circonscriptions en ballotage après le premier tour, avant le 15 octobre, par une commission internationale. Le ramassage des armes de guerre aux mains des civils est programmé pour le même mois d'août. La conclusion de l'accord de Libreville détend le climat politique. Pascal Lissouba.
En dépit de ma qualité de premier magistrat, je n'ai pas compétence pour annuler une quelconque élection. Cependant, en ma qualité de président de la République, garant de la paix et de l'unité nationale, je ne m'opposerai pas à ce que les partis politiques concernés s'accordent sur les conditions de la reprise sans effet suspensif du second tour des élections législatives dans 10 des 11 circonscriptions. J'en appelle donc à tous les partis concernés par ce deuxième tour, femmes et hommes, à se surpasser et à privilégier les intérêts du peuple profond aux préoccupations partisanes.
L'état d'urgence est levé le 16 août 1993. Les personnes déplacées des quartiers de Bakongo et de Makelekele, dont l'habitation n'a pas été détruite, rentrent petit à petit chez eux. Mais la crise est loin d'être résolue, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pascal Lissouba. Brazza s'apprête à vivre des moments difficiles, malgré cette apparente accalmie. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Nous terminerons bien sûr cette seconde partie par le jeu qui vous permet désormais chaque semaine de gagner des coffrets Archives d'Afrique, la vidéo. Restez à l'écoute et à très vite.
Les Archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis l'enfant de la Baule, bien sûr, parce que si Mitterrand n'avait pas, le président Mitterrand n'avait pas lancé cette date que il fallait aller vers la démocratie, Et donc, pour moi, je suis le produit de Mitterrand, si vous voulez, donc le produit de cette démocratie qu'il appelait déjà de ses voeux.
Un enfant de la Baule, très vite confronté à la réelle politique et au non-dit de cette lutte pour l'instauration de la démocratie. Il a certes été élu président du Congo à la faveur de ce vent de liberté parti d'Europe de l'Est et amplifié par le discours de François Mitterrand à la Baule qui exhortait les dirigeants africains et francophones notamment à un effort de démocratie. Mais il est confronté en cette année 1992, juste après son accession à la magistrature suprême, aux vicissitudes et aux limites de l'exercice tel que lui, scientifique, le pensait. Moins d'un an seulement après avoir été élu premier président du Congo de l'ère d'après conférence nationale souveraine, il fait déjà face à une guerre civile. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pascal Lissouba.
De ma qualité de premier magistrat, je n'ai pas compétence pour animer une quelconque élection. Cependant, en ma qualité de président de la République, garant de la paix et de l'unité nationale, je ne m'opposerai pas à ce que les partis politiques concernés s'accordent sur les conditions de la reprise sans effet suspensif. Second tour des élections législatives dans 10 des 11 circonscriptions. J'en appelle donc à tous les partis concernés par ce deuxième tour, femmes et hommes, à se surpasser et à privilégier les intérêts du peuple profond aux préoccupations partisanes.
Confronté à une opposition qui conteste dans la rue, par la force, les résultats des législatives, qui devraient enfin lui donner une majorité parlementaire pour gouverner, sous la médiation du président Omar Bongo Ondimba du Gabon et de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, Pascal Lissouba a accepté en ce mois d'août 1993 le principe de l'annulation du second tour dans les bureaux dénoncés par ses adversaires. L'état d'urgence est levé et le calme revient progressivement dans les quartiers de Brazzaville qui ont été vidés de leur population. Le second tour, tant querellé, va malgré tout donner une majorité confortable au président Pascal Lissouba. Mais le ton va rapidement monter lorsque l'opposition, privée de l'accès aux médias d'État par le pouvoir, inaugure sa propre station de radio. Deux jours plus tard, deux fonctionnaires proches de Pascal Lissouba sont enlevés à Bakongo par des miliciens ninjas. Aussitôt, l'armée entreprend une opération militaire à Bakongo pour réduire la milice de Bernard Kolela. Elle détruit la radio de l'opposition et le siège du parti de Bernard Kolela. L'offensive de l'armée fait plusieurs victimes civiles, officiellement 42 morts. Trois militaires dont le véhicule tombe en panne durant l'opération sont massacrés par la population. Après le retrait des blindés de la force publique, la milice de Bernard Kolela entreprend le nettoyage ethnique des quartiers de Bakongo et de Makelekele, abattant les ressortissants des pays du Niari qui tombent entre leurs mains, pillant ou détruisant leurs maisons. La plupart des ressortissants des pays du Niari trouvent le salut dans la fuite. Les FAC, les forces armées congolaises, établissent une ceinture de sécurité autour des quartiers du sud de la capitale, isolant les habitants du reste de la ville.
J'ai fait serment de respecter la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai violée. J'ai usé de tout ce qu'on pouvait user pour amener mes compatriotes à se convaincre d'un consensus pour travailler ensemble. Réponse, barricade, coup de fusil, cocktail Molotov. Mais M. Kolela est parti lié avec le PCT. Ce sont deux ethnies qui se sont affrontées pendant des années. Et le PCT était au pouvoir. Moi, j'étais au bord. Il y a eu une bonne demi-douzaine de coups d'État. Ces coups d'État étaient fomentés justement. L'un d'entre eux ou deux d'entre eux ont été fomentés par le même Kolela contre le PCT. Brusquement, les voilà ensemble. Voilà l'étonnement. Mais je suis prêt à me battre.
Pour Pascal Lissouba donc, les événements à Bakongo et Makelekele sont le fait de hordes de brigands armés et drogués. Et l'intervention de la force publique n'a aucun caractère politique. Au bout d'une dizaine de jours, la situation tend à se normaliser. En novembre, le gouvernement et l'opposition signent un accord pour mettre fin aux tueries. Les militaires qui quadrillent Brazzaville depuis le début du mois regagnent leurs casernes. Le 11 décembre, alors que Pascal Lissouba participe à la 8e conférence internationale sur le sida en Afrique, à Rabat au Maroc, l'arrondissement de Mfilou à Brazzaville s'embrase. À Moutabala, à Makazu, à Massissa, à Diata, la milice de l'UPADS de Pascal Lissouba, formée à Hopeville, sous le couvert de la réserve ministérielle, se livre à des exactions sur les ressortissants du Pool. Plusieurs d'entre eux sont assassinés et leurs maisons sont systématiquement pillées ou détruites. Après plusieurs jours, les quartiers en ébullition ne comptent plus un seul originaire de la région du Pôle, la plupart ayant dû s'enfuir. Pour les Aubévillois, c'est une réponse à l'épuration ethnique perpétrée par la milice de Bernard Kolela à Bakongo et à Makelekele les mois précédents. Les ninjas bloquent le trafic des chemins de fer dans la région du Pôle. Pascal Lissouba.
Je suis attristé, bien entendu, mais difficile de me réjouir, d'apprendre ici, je suis loin de mon pays, d'apprendre qu'il y a eu de la violence, une fois de plus, dans mes quartiers, dans les quartiers de mon pays. Mais c'est une chose à laquelle il va falloir que nous nous habituions tous les uns et les autres. Nous avons une opposition, que veut-elle ? Difficile, je ne peux pas être à leur place. Lorsque j'ai eu à combattre des régimes par le passé, j'ai pris ma plume, sans plus. Et cela m'a valu des prisons, des incarcérations, etc. Mais je n'avais qu'une chose, ma plume. D'autres utilisent d'autres moyens. Il s'agit, j'espère, simplement le sursaut de l'agonie.
Au cours des semaines suivantes, de fréquents accrochages mettent aux prises les forces armées appuyées par la milice du pouvoir et celles de Bernard Kolela.
Comment pourrait-on, un seul instant, attribuer un caractère politique à ce qui se déroule aujourd'hui, quand on sait que chaque groupe politique avait solennellement affirmé ne détenir aucune arme de guerre et que de leur côté, les institutions de la République ont pris toutes leurs dimensions pour bien fonctionner. Les crimes à l'origine des événements actuels et qui continuent à être perpétrés dépassent en horreur tout ce que le Congo a connu de plus crapuleux, de plus odieux, puisqu'il s'agit d'actes individuels et d'expéditions dites punitives contre des cibles bien déterminées par des hors-la-loi éliminant leurs victimes de sang-froid. C'est dans ce contexte que la force publique s'est mise en devoir, avec les moyens dont elle dispose, d'assurer les conditions de retour à une paix durable, sans laquelle le Congo ne peut se mettre au travail, promouvoir son développement, assurer sa prospérité et conjurer les exactions de juin à juillet 1993.
Les cobras qui constituent la milice du PCT, le Parti Congolais du Travail, et assurent la protection de Denis Sassou Nguesso, restent à l'écart des combats mais fournissent des armes et des munitions aux partisans de Bernard Kolela. À partir du 16 janvier 1994, l'armée fait le blocus des quartiers de Bakongo et de Makelekele. Pendant deux semaines, les habitants des quartiers sud de Brazzaville sont quasiment prisonniers. Au début de l'année 1994, l'arbitrage d'un collège de juristes africains qui atteste la défaite de l'opposition permet enfin de dénouer la grise. Les députés du MCDDI de Bernard Kolela dans la région du Pôle et ceux du parti de président Pascal Lissouba, l'UPADS, des pays du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou, constituent un comité interrégional de paix et décident d'un cessez-le-feu immédiat. Les uns et les autres s'engagent à désarmer leurs partisans et mettre en place une force d'interposition pour sortir de la logique de guerre civile à fort caractère ethnique qui les oppose. Cette initiative des élus apaise le climat politique. Quelques mois plus tard, Denis Sassou Nguesso se retire à Oyo dans son village. Plusieurs officiers originaires du nord du pays, forcés au désœuvrement par le gouvernement puis radiés, se rapprochent de lui et encadrent la milice privée qui l'entoure. Mais Pascal Lissouba peut enfin, 17 mois après son élection, se mettre au travail. Seulement, la situation économique après ces guerres, ces affrontements intempestifs, s'est considérablement détériorée. Il faut travailler à ramener la paix, mais également à relancer les activités productrices. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est le moment que choisit Paris pour dévaluer le franc CFA de 50%.
L'actualité africaine à présent avec un nouveau tournant dans les relations franco-africaines avec la dévaluation cette nuit de 50% du franc CFA. Paris promet des remises de dettes, le FMI assure qu'il va débloquer ses crédits. Sur place, opinion et gouvernement sont inquiets.
Cette mesure double les recettes d'exportation, mais également les coûts d'importation pour les pays concernés. Pour le Congo, très dépendant de l'étranger pour ses besoins alimentaires et en produits manufacturés, la dévaluation de la monnaie est pénalisante pour les ménages. Le plan d'action et de relance économique et sociale par ISO, adopté par le Parlement au début de l'année, obtient l'agrément du FMI après de rudes négociations. Il prévoit notamment le recensement du personnel de l'État entrepris depuis fin 1993, la réduction de son train de vie et la privatisation de plusieurs grandes entreprises publiques. Pascal Lissouba lance la délocalisation de l'université Marie-Angouabi avec le transfert de certains établissements dans d'autres villes du pays, notamment la faculté des sciences à Dolisy, celle de médecine à Pointe-Noire et l'Institut des sciences de l'agronomie à Sibiti. Mal préparées, les structures n'ayant pas été préalablement aménagées, la mesure est un échec. S'ajoutant aux perturbations dues aux troubles politiques, cette opération avortée conduit à une année blanche à l'université. Mais Pascal Lissouba peut désormais se déployer sur le continent. Il met en place une diplomatie tous azimuts et prend des positions franches dans les nombreux sujets d'actualité qui rythment le monde. Il est de ceux qui n'acceptent pas, par exemple, la rapidité avec laquelle le régime de Paul Kagame est entériné en 1994.
Personnellement, je le regrette. Je n'ai pas aimé le point de vue pris par les actuelles autorités quand elles n'étaient pas encore autorités, puisque les organisations internationales viennent de les y consacrer. Parce que je me disais que l'opposition ne doit pas prendre appui sur les désordres à l'intérieur pour entrer et prendre le pouvoir. Mais je me mets à la place de cette opposition, je me mets à la place de la misère de leur peuple. Il fallait y aller vite et essayer de sauver ce qu'il était possible de sauver. Vu sous cet angle, je me dis, ils ont fait l'essentiel et je sais que l'actuel président fait de son mieux pour arrêter ce qu'il peut arrêter, c'est-à-dire les revanches, etc. Moi, j'estime que nous devons encourager ce geste, tout faire pour l'aider à stabiliser la situation et à se régulariser en se référant au peuple, non pas garder le pouvoir parce qu'il a obtenu manu militari.
Pascal Lissouba va aussi traverser le fleuve Congo pour aller apporter son soutien au maréchal Mobutu Sese Seko, malade et malmené par l'alliance portée par Laurent Désiré Kabila, qui avance à grandes enjambées vers la capitale. Il sollicite l'indulgence et la compréhension des Kinois et de la communauté internationale qui l'ont isolé et qui le traite comme un paria. À l'intérieur, Pascal Lissouba doit faire face à une réalité. Les caisses de l'État sont vides.
Oui, monsieur, le Congo est riche. Je vous le confirme. Il est même terriblement riche, le Congo. Il a du pétrole, il a du bois, il a un sous-sol, il a même du sol, même de genre qu'on pourrait appeler de tchernosium. Autrement dit, une terre noire très riche. Mais alors, allons-y maintenant au Congo. 65% de la population congolaise se trouve entre Brazzaville, à Brazzaville et à Pointe-Noire. 55. L'arrière-pays, plus personne, pratiquement. Ce sont les statistiques que je vous donne. Moi, j'y arrive. Ça faisait 17 ans que j'étais... 20 ans que je suis loin, hors du Congo. Il n'y a plus personne. Et pourtant, il a bien sûr des millions de tonnes de barils qui sont sortis de 80, en gros, 79-80, jusqu'à 85-86. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure du fait de ce pétrole? Mais il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a pratiquement pas d'infrastructure. Il y a 5 milliards de dollars américains de dette. Qu'avons-nous fait de cette dette? Et aujourd'hui, voilà des questions sur lesquelles je ne veux pas répondre parce que ça fait politique politicienne. Ça fait conflictuel, ça fait ce sont des aspects que j'ai déjà mis de côté. J'ai dit, j'assume. Le pays est complètement délabré. Nous y venons, nous essayons de mettre un peu d'ordre. Bon, nous avons des difficultés. Vous dites difficultés de gérer. Je dis, je gère le pays. Le pouvoir au Congo n'est pas vacant.
Il faut trouver de l'argent et prendre les mesures pour être éligible au concours des institutions de Bretton Woods. Le Parlement adopte le nouveau code des hydrocarbures. Désormais, l'exploitation du pétrole congolais se fera non plus sous le régime de concession, mais dans le cadre de contrats de partage de production. La nouvelle loi assure à l'État une part à la rente pétrolière plus importante, notamment dans les périodes de prix du brut élevé. En dépit des déclarations de bonnes intentions, le gouvernement peine toujours à honorer le paiement du salaire des agents de la fonction publique. Pour se donner un bol d'air frais, l'État sort du capital des sociétés Elf Congo et Agib Recherche Congo, courant 1994. L'opération rapporte environ 25 milliards de francs CFA, environ 50 millions de dollars. Loïc Lefleur-Prigent, ancien président d'Elf.
Il l'a fait, mais disons qu'il n'a pas changé grand-chose. Ce n'est pas parce qu'on a changé les concessions en contrat de partage de production. On a changé le fait qu'il avait vendu les barils déjà, ses barils à lui, Il les avait vendus déjà à Occidental Petroleum à 2 dollars le baril.
Toujours dans le souci de bénéficier du soutien du Fonds monétaire international, Pascal Lissouba, qui a reconduit le Premier ministre Yombi Opango et ouvert le gouvernement à une partie de l'opposition, s'emploie à réduire le taux d'inflation, rétablir un paiement régulier de la dette extérieure et réduire la masse salariale. Au mois de juin 1996, le Congo obtient l'annulation par le Club de Paris de 67% de sa dette. Elle est estimée à 989 milliards de francs CFA. Sur le plan des privatisations, Hydro-Congo, la Congolaise de raffinage, les postes et télécommunications et l'Union Congolaise des banques sont mises sur le marché. Cependant, les entreprises à privatiser n'attirent pas d'éventuels repreneurs. Pascal Lissouba a tout de même une bouffée d'oxygène. Mais il n'oublie pas cette menace qui plane au-dessus de sa tête. En tolérant le contrôle de certains quartiers par les milices, Ninja à Bakongo et Makelekele, Zulu et Kokoy à Filou et Diata, et Cobra à Mpila, il a laissé le verre dans le fruit. Et il risque rapidement de le regretter avec les échéances qui approchent. On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pascal Lissouba. Mais en attendant la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play.
Archives d'Afrique. Le jeu.
Voici donc venu le moment du jeu pour gagner le coffret Archives d'Afrique. Mais je voudrais féliciter les milliers d'entre vous qui avaient joué la semaine dernière. Vous étiez nombreux à avoir reconnu l'auteur de ceci.
Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est...
Il s'agissait, et vous êtes nombreux à l'avoir reconnu, du président Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre messagerie WhatsApp sont Gamédé Adjovi Joël, à Lomé au Togo, Soro Nyenema Bakari, à Boaké en Côte d'Ivoire, Lui Adjideho, à Cotonou au Bénin, Yakuba Togo, à Bamako au Mali, Gilles Patrick Gangamungwa, à Padova en Italie, Yaovi Ketiva, à Lomé au Togo, Étienne Dalmeida, à Cotonou au Bénin, Bélo Serouti, à Pointe-Noire au Congo, Simkera Kofi à Kévé au Togo et Koudougou Ouseni à Ouagadougou au Burkina Faso. Voilà pour les gagnants. Cette semaine encore, vous avez la possibilité de gagner les coffrets Archives d'Afrique. Il s'agit du volume 1 qui compte 4 personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Amadou Ahidjo du Cameroun, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Sékou Touré de Guinée et Séni Koundé du Niger. Alors à vos téléphones et à vos ordinateurs pour dire qui est l'auteur de ces propos.
J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi aujourd'hui pour renverser la monarchie de Bokassa.
Qui est l'auteur de ces propos? Trop facile. 10 coffrets Archives d'Afrique, volume 1, la vidéo, a gagné pour les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et 5 coffrets autres pour les 5 premières bonnes réponses à notre messagerie WhatsApp dont les coordonnées sont, si vous appelez de l'étranger,
33 6 08 72 23 92.
Et si vous appelez de France,
06 08 72 23 92.
À vos téléphones et à vos ordinateurs. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone. Une réponse sans coordonnées est automatiquement éliminée. Vous pouvez évidemment continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Une semaine d'actualité